On jase à l'instant avec Ray Lalonde, expert sport et business pour l'ensemble du réseau Cogeco. Vous pouvez le voir également à RDS. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Real Ray Lalonde sur Twitter. Également, son podcast Focus, toujours très intéressant. Vous pouvez suivre ça via Twitter ou via YouTube. C'est très facile à trouver et vous allez en apprendre. Si vous suivez, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, je vous le recommande quotidiennement, mais si vous le suivez à l'occasion, parce qu'on a des vies effrénées et on n'a pas le temps de tout faire, mais vous allez apprendre des choses. Et c'est ce que je pense qui manque le plus dans les médias nord-américains, des gens qui sont en mesure de nous apprendre des choses. Et Ray Lalonde, mon prochain invité, est en mesure de nous apprendre des choses. C'est pour ça qu'on aime tant lui parler. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien, merci. Évidemment, beaucoup de choses retiennent l'attention cette semaine dans ton département sport et business, mais j'oserais commencer avec le dossier du baseball à Montréal, étude de viabilité, les promoteurs qui rencontrent le premier ministre Legault. On parle d'un stade de 32 000 sièges. On ne sait pas encore où on va l'installer, mais dans quelle mesure, j'aimerais savoir de ton expertise, dans quelle mesure c'est autant complexe d'en arriver avec un projet de stade qui devient réel?
Ben, Dan, t'as touché plusieurs points là-dedans. Si on le regarde uniquement du côté personnel, probablement qu'à l'intérieur de nous, on se sent tous pas mal excités à l'idée de retrouver éventuellement une équipe de baseball au Québec. Parce que l'erreur fatale, c'est de les avoir laissés partir en 2004. Parce que ne serait-ce que la valeur de la franchise, Dan, pense-y deux minutes, là. Les Marlins de Miami ont été vendus à Derek Jeter et son groupe il y a plus d'un an déjà, là. Facture totale de 1,2 milliard de dollars US. Puis ça, c'était vraiment la moins séduisante des équipes de baseball majeur. Des équipes comme les Yankees, ça frôle le 4 à 5 milliards de dollars US. Alors, quelque part là-dedans, là, notre équipe de Montréal, à l'époque, si on l'avait gardée, elle aurait pris une valeur énorme, puis on ne serait pas obligé de dire « Oh boy, là, on a un problème de stade, puis on n'a plus d'équipe, puis on veut du baseball, puis ça va coûter une facture brutale. » Brutale. Et là, c'est là qu'on est obligé de se dire « Ouais, mais comment quelqu'un pourrait dépenser, qui, à mon avis, de façon humble, mais d'une façon quand même assez éduquée, là, c'est une facture totale stade et équipe qui va dépasser le 2 milliards de dollars canadiens. Il n'y a aucun doute. Parce que même si tu bâtis 32 000 sièges, un stade de baseball, c'est déjà plus grand qu'un amphithéâtre de hockey. Puis les amphithéâtres de hockey aujourd'hui, qui sont les moindrement modernes, ben, c'est quoi? C'est 500 millions ou plus. Et puis une équipe de baseball, ben, tu l'auras pas moins cher que les Marlins ont vendu à Derek Jeter. Puis mets tout ça en dollars canadiens, puis attends encore quelques années, puis tu vas te retrouver avec une facture qui est très, très cher. Alors, donc, on parle de financement. Qui va payer? Et ça, c'est la question.
C'est le nerf de la guerre. On a vu les promoteurs de Seattle dire, nous, ça va être 1,4 milliard, la rénovation du Key Arena, le 650 millions qu'on donne à la Ligue nationale, le 75 millions pour le centre d'entraînement, tout ça va venir du privé. Est-ce qu'en 2018, les gens qui vont vouloir y aller de l'avant avec de nouveaux stades ou de l'arrivée de nouvelles franchises, ce sera pas ça un peu le défi? Plus il va y avoir de privé dans l'aventure, plus ça va être possible d'en arriver à leur fin?
Bien, certainement, plus ça va être possible de faire accepter le projet par les municipalités, dans ce cas-ci à Montréal, et par les concitoyens. Ça, c'est sûr qu'à quelque part, quand les gens s'engagent du côté privé, ils prennent la responsabilité. Dan, la perception des gens, il ne faut pas se leurrer, c'est que les gens se disent, pourquoi les riches deviendraient plus riches? Pourquoi des milliardaires, déjà, deviendraient encore plus riches? Ils veulent qu'on dépense pour payer leur stade de baseball ou leur stade de sport, peu importe. Mais à quelque part, les dirigeants disent non, mais c'est rentable pour une économie d'une ville. C'est un engin, un moteur économique. Puis il y a de la vérité des deux côtés. Il y a une chose qui est claire, c'est que si ces gens-là ont tellement d'argent aujourd'hui puis estiment que les valeurs des franchises sont si élevées, ben pourquoi ils ne paieraient pas de façon privée? Et quand les investisseurs parlent de privé, le public est beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'il ne se sentira pas responsable en versement de taxes quelconque de payer pour cette infrastructure-là ou pour cette équipe-là. Parce que finalement, le concitoyen, le résident, lui ou elle, ne récolte rien de ça, sauf le plaisir de se faire divertir par une équipe de sport.
OK. À longueur d'année, j'essaie de rappeler aux parents qui sont à l'écoute que leurs enfants devraient pratiquer plusieurs sports. J'essaie de donner des résultats d'études américaines, des spécialistes qui sont en charge du recrutement dans les universités américaines. J'essaie de convaincre les parents à l'écoute de mon émission qu'il faudrait que leur enfant pratique plus d'un sport. Mais là, je vais me servir de ton expertise parce que tu as déjà été aux États-Unis avec l'université Penn State, entre autres. Il y a Kyler Murray qui a gagné le trophée Heisman samedi dernier, qui va faire carrière au baseball, selon toute vraisemblance. Choix des Aces d'Oakland, 9e au total au dernier repêchage. Qu'est-ce que toi t'as vu et dans quelle mesure t'es capable de donner des arguments aux parents qui écoutent mon émission ce soir, d'inciter leurs enfants à pratiquer plus d'un sport?
Bien, je suis 150% d'accord avec toi, Dan. Premièrement, là, pour l'avoir vu de mes yeux, je peux te dire, tu veux parler de Penn State, je vais t'en parler pour 15 secondes. À Penn State, on plaçait les meilleurs athlètes aux positions les plus exigeantes à part corps arrière.
Okay.
Parce qu'à un moment donné, il faut que le gars soit capable de lancer un ballon. On est d'accord.
Ouais.
Mais on prenait nos meilleurs athlètes, puis mon ami Glenn, avec le rouge et or, va probablement être d'accord avec moi. On plaçait nos meilleurs athlètes à la défensive. Pourquoi? Parce que si on était capable d'arrêter les meilleurs attaquants de l'autre équipe, puis les meilleurs outils, puis les meilleurs joueurs athlétiques, ben, c'est parce qu'on avait des défendeurs, que ce soit des secondaires de ligne, que ce soit des demi-défensifs, peu importe, qui étaient tellement athlétiques. Mais ça, ce talent athlétique-là pur et simple, ça vient de la polyvalence puis de la diversité. Puis ça vient de l'effet de jouer plusieurs sports. Encore une fois, à Penn State, on avait des gars qui jouaient dans notre équipe de football qui étaient des joueurs qui auraient pu traverser de l'autre côté, jouer au baseball ou jouer au basketball. Je me rappelle d'un joueur que j'ai coaché, il s'appelait O.J. McDuffie. Okay. Un receveur étoile qui a fait une belle carrière avec les Dolphins de Miami. O.J. McDuffie jouait ensemble pour notre équipe de baseball. C'était un athlète, ce qu'on appelle en anglais, si tu me permets, all around. Alors, Kyler Murray, lui, a le choix. Jouer au football dans la NFL comme corps arrière, parce que Dieu sait qu'actuellement, la NFL aime les corps arrière qui bougent, qui sont rapides, qui ont des bons bras, qui se déplacent dans le champ arrière, qui sont difficiles à saisir. Mais aussi, il a une carrière possible de longues années dans le baseball majeur qui est beaucoup moins risqué au niveau de sa santé. Alors, lui, il a le choix. Mais il a le choix parce qu'il a passé sa jeunesse à pratiquer plusieurs sports. Là, on n'a pas souvent des Kyler Murray et des Bo Jackson qui sont des joueurs élites.
Oui.
Mais il demeure un fait que de jouer au tennis et au golf, de faire du ski, de faire de la course à pied et de l'athlétisme, de pratiquer d'autres sports comme le baseball, qui est un peu parfois un peu perdu parce qu'on n'a plus nos expos, de jouer au soccer puis courir, mais aussi d'avoir des talents dans une spécialité comme le hockey ou le football. Ben, tout ce que ça fait, ça développe un ensemble de qualités athlétiques. Puis, il y a effectivement des études qui vont te dire qu'il y a moins de risques de blessure quand tu es plus polyvalent comme athlète. Bon, alors mon message est passé et je suis entièrement d'accord avec toi.
OK. Le plafond salarial dans la NFL, encore une fois, cette semaine, on a entendu que ça va monter. Est-ce que pour toi, c'est démesuré, puis dans quelle mesure les salaires sont bien répartis? Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs également qu'il y a une portion des salaires qui sont pas garantis, puis il y a aussi l'étiquette de joueur de concession dans la NFL, ce qu'on n'a pas dans la LNH.
Exactement, mais ça c'est un bon point. Le fait que dans la NFL, on est d'accord que parmi les grandes ligues sportives américaines, la NFL est la plus populaire de loin. On est aussi d'accord que le football américain, c'est le sport le plus dangereux pour ta santé vis-à-vis les autres sports. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de blessure au baseball et au basketball, puis au hockey aussi, évidemment. Mais le football, c'est un sport où les carrières durent en moyenne 4 ans au niveau professionnel. Et c'est très difficile pour les joueurs. Pense particulièrement à la position de demi-offensif où on les remplace d'année en année parce qu'ils ne peuvent pas durer très longtemps. Savais-tu aussi que parmi les 5 grandes ligues, j'inclus la MLS, il y a juste la MLS qui a un salaire moyen plus petit que la NFL parmi ces 5 grandes ligues-là. Les joueurs de hockey de la Ligue nationale, qu'on est tous passionnés de les suivre, on ne dit pas que Crosby, puis Price, puis Ovechkin ne méritent pas beaucoup d'argent, sont plus payés que dans la NFL. Alors, un, la carrière de la NFL est plus courte. Deux, les joueurs de la NFL sont dans une ligue excessivement plus riche que le hockey, et on les paye moins cher. Donc, on peut parler d'un cap salarial qui a monté de 550% depuis le début de l'ère du cap salarial en 1994 avec la NFL. Mais une chose qui est claire, c'est que la NFL sous-traite et ne paie pas ses joueurs suffisamment d'argent pour le risque physique que ça implique, et je ne parlerai pas des blessures à la tête, mais aussi pour la durée de vie. Donc, un gars qui joue dans la NFL, lui, il y a moins d'argent en cours de route et doit probablement penser à une après-carrière. Et le point que tu as mentionné, c'est que les contrats ne sont pas garantis. Sauf pour une portion en bonification qui fait en sorte que le joueur veut le maximum d'argent garanti et est prêt à accepter un contrat annuel moins grand parce qu'ils sont bonis avant. Évidemment, les joueurs sont plus sophistiqués aujourd'hui et leur agent aussi, ce qui fait en sorte qu'ils se protègent mieux. Mais contrairement à des joueurs de hockey ou des joueurs de basketball de la NBA, qui ces gars-là, même s'ils sont retranchés de leur équipe, continuent à gagner leur salaire, comme ça devrait être le cas dans la NFL, mais la NFL n'offre pas cette protection-là à ses joueurs, ce qui est très dommage pour une ligue qui est si riche.
OK. Dernier point sur la NFL. Cette semaine, on a appris que l'an prochain, pour 2019, il va y avoir 4 matchs à Londres et 1 à Mexico City. C'est pas la première année. On fait ça depuis quelques années déjà. Mais est-ce qu'on va faire ça? Dans le fond, la question que j'ai pour toi, l'expert sport et business, est-ce qu'on va faire ça pendant 10-12 ans où il y a une arrière-pensée derrière cette idée-là d'installer une équipe un jour ou l'autre dans l'une de ces deux villes ou ailleurs? J'ai aucune idée où, mais ailleurs.
Ben, moi, je pense qu'on est aussi près que jamais à un déménagement, une relocalisation ou une expansion dans une ville européenne pour soit la NFL, soit la NBA. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps. Écoute, j'étais dans la NBA dans les années 93. J'ai commencé en 93, puis on avait déjà entamé depuis un bon bout de temps les matchs internationaux. Et la NFL joue à Londres depuis longtemps. Puis moi, je croyais effectivement qu'avec l'intérêt de M. Khan, le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, qui voulait acheter le Wembley Stadium, qu'on se rapprochait de la possibilité de voir les Jaguars déménager en permanence là-bas. Je pense que ça va arriver dans notre vie, Dan, mais c'est quand même pas si facile à cause de toute la logistique. Par rapport à Mexico, encore une fois, la NFL puis la NBA pourraient y aller. C'est juste quelques heures d'avion de Dallas ou de Houston ou de San Antonio, peu importe la ligue. C'est encore plus facile. T'es dans le même fuseau horaire. La différence avec Mexico, par exemple, c'est pas tout à fait le même marché pour accommoder des joueurs en permanence dans leur vie quotidienne. Puis je pense que Londres est plus attrayant. Le problème de Londres, évidemment, c'est la distance, puis la logistique, puis les voyages, puis comment une équipe est désavantagée à aller là-bas. Mais honnêtement, une seule équipe à Londres, c'est pas comme la NBA où tu joues 82 matchs dans l'année. Là. La NFL, c'est 16 matchs. Ça pourrait se faire. Puis tu n'aurais même pas besoin d'une autre division puis d'une autre équipe. Il faudrait simplement faire de la place logistiquement pour accommoder une équipe qui joue là-bas. Mais le défi serait quand ils feraient les playoffs. Puis ils arriveraient en série. Puis là, tu aurais un avantage si eux étaient, par exemple, l'équipe hôtesse. Parce que l'équipe visiteuse d'une semaine à l'autre aurait presque pas le temps de se préparer pour le changement d'heure et pour la climatisation qui serait nécessaire. Alors, c'est un gros défi, puis on va le voir arriver dans notre vie, ça c'est sûr. La question, c'est laquelle des deux ligues, puis laquelle des deux villes.
OK, je comprends. Parfait, un gros merci, Ray. Je sais que c'est juste dans 10 jours, mais je te souhaite de joyeuses fêtes. On va se reparler au mois de janvier.
Oui, merci, Dan. Puis toujours un plaisir de parler à toi et tes auditeurs, puis joyeuses fêtes à tout le monde à Québec.
Parfait, c'est très gentil, c'est réciproque. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan.
Ray Lalonde, expert sport et business pour le réseau Cogeco. Toujours intéressant de lui parler.